Écoutable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découvert, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianzetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute. Après nous être intéressés aux cuisines chinoises, japonaises et indiennes, je vous propose de changer de continent pour parler d'une cuisine connue pour ses épices et ses couleurs, la cuisine marocaine. Avec les cuisines algériennes et tunisiennes, elle est considérée comme la cuisine étrangère la plus copieuse, mais aussi comme l'une des cuisines les plus épicées. 73% des Français disent l'apprécier, quand même sa consommation au restaurant reste occasionnelle. On la résume bien souvent aux tagines et couscous, on imagine alors des plats dont l'élément central est la viande ou le poisson, souvent avec des légumes d'été. Mais qu'en est-il réellement? Quelle est la place des protéines animales et de la saisonnalité? Derrière l'emblématique couscous, longtemps considéré comme le plat préféré des Français, se cachent d'autres spécialités tout aussi goûtues mais plus méconnues comme la soupe harira, la pastilla, les msemens, le zalouk ou encore les briouettes. Pour questionner cette cuisine, la comprendre sur tous ses aspects, notamment éco-responsable, je reçois aujourd'hui Tarek et Leïla Idrissi. Un frère et une sœur à l'origine de la Cuisine de Souad, un service de traiteur événementiel et de chef à domicile créé en 2021 et qui propose une cuisine marocaine engagée socialement, mais aussi authentique, végane et bio. Bonjour Tarek, bonjour Leïla.
Bonjour.
Bonjour Fanny.
Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter tous les deux, Leïla ?
Donc je m'appelle Leïla, j'ai 26 ans. Ma passion est très liée à celle de Tarek. J'adore déguster les plats qu'il propose et qu'il cuisine. Et je suis cofondatrice de la Cuisine de Souad.
Tarek.
Du coup, c'est Tarek, 31 ans, grand frère de Leïla, passionné par la cuisine et cofondateur de la Cuisine de Souad.
Comment vous en êtes arrivé à cofonder la Cuisine de Souad? C'est quoi l'histoire de la Cuisine de Souad?
Bah, c'est vrai que pour nous, la cuisine, ça a toujours fait partie de notre quotidien. Notre maman, elle cuisinait beaucoup, bien qu'elle était professeure de maths, donc elle avait un métier qui n'avait rien à voir, mais on recevait chaque week-end soit des amis, soit de la famille chez nous. Donc pour le plus grand bonheur de son entourage, elle cuisinait vraiment très très bien. Et pour nous, la cuisine, c'était toujours un lieu de convivialité. Quand les invités, ils arrivaient, ils se dirigeaient tout de suite dans la cuisine, pas dans le salon, la salle à manger, c'est tout le monde dans la cuisine.
D'où viennent les bonnes odeurs?
Ouais, exactement, ils suivaient les bonnes odeurs. Alors Souad, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Est-ce qu'on peut te donner un coup de main? Donc pour nous, c'est de là d'où vient notre passion et notre envie de cuisiner.
Ok, et elle cuisinait toujours marocain?
Principalement, quand on recevait, c'était forcément la cuisine marocaine qui était mise à l'honneur. Et après, il y avait des classiques, mais plus pour dépanner la semaine, on va dire, que vraiment, le week-end, c'était tagine ou autre plat marocain, mais c'est vraiment les plats qui nous réconfortaient tous.
Ouais, et la semaine, c'était peut-être des plats un peu plus européens, des escalopes avec du riz, sauce champignon. Enfin, elle faisait vraiment tous les... Mais tout ce qu'elle faisait était excellent. C'est-à-dire, il y a cette pâte derrière, de même les spaghettis bolognaises, on va dire, la chose la plus simple. Bah, la bolognaise, c'était quand même une petite kefta avec des épices particulières, etc. Donc, ça avait toujours le charme de la cuisine de notre maman, quoi.
Mais de là à créer un traiteur de cuisine marocaine, il y a quand même un pas. Qu'est-ce qui vous met le pied à l'étrier et vous décide de le faire?
En fait, notre maman, elle est tombée malade. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on voulait surtout pas perdre cet héritage-là et pas perdre ses recettes s'il arrivait quoi que ce soit. Donc en fait, on a commencé pendant le confinement à faire beaucoup de recettes avec elle, à cuisiner. Tarek, il était à distance, il habitait à l'étranger. Donc on s'appelait et c'est à partir de là qu'on a commencé beaucoup à cuisiner ensemble, mais dans un but vraiment d'apprendre et pas juste d'aider ou d'être là en tant qu'observateur. Mmh. Et on a commencé comme ça à écrire nos carnets de recettes.
On faisait des Instagram live, c'était à l'époque du Covid, ouais. avec maman qui nous apprenait. Leïla, elle était avec maman à Paris, moi j'étais à Amsterdam. Et on se faisait des lives, il y avait, je sais pas, 20, 30 personnes qui rejoignaient nos amis, quoi. Et tout le monde aimait bien ce moment. Et pour nous, c'était un moment où elle nous transmettait, en fait. C'était la transmission de ses recettes, parce que chaque cuisine marocaine est différente. Et nous, on voulait vraiment apprendre la cuisine de notre maman. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé la cuisine de Souhaïd, parce que on prétend pas représenter toutes les cuisines du Maroc, c'est impossible, mais on représente la cuisine de notre maman, Souhaïd. Et du coup, c'est de là qu'est venue un peu cette envie de cuisiner marocain. Et il y a eu aussi, je pense, une prise de conscience chez nous. Moi, ça faisait 6 ans à cette époque-là que j'étais chez Nike, dans différents postes. Et j'avais pris conscience que c'était plus en accord avec mes valeurs, ce que je faisais au quotidien dans mon boulot. Et donc, j'avais envie de faire un projet qui pouvait avoir un impact positif autour de moi, que ce soit socialement ou sur le côté environnemental aussi. Et on s'est dit avec Leïla, pourquoi pas avoir cet impact via la cuisine, quelque chose qui nous passionne, où on a des connaissances, où tout le monde nous dit que la cuisine de notre mère est excellente. Enfin, vraiment, les gens, ils venaient à la maison. Et même les amis de mes parents qui avaient des femmes marocaines aussi, qui cuisinaient très bien et tout.
C'était toujours la blague.
C'était toujours la blague de la baisse cuistot et que mon père était le plus chanceux. D'ailleurs, mon père est tombé amoureux de ma mère avec un tagine. elle était vraiment connue pour ça. Et on s'est dit que c'était une belle chose de pouvoir lui rendre hommage et de pouvoir avoir un impact positif autour de nous à travers du coup cette cuisine généreuse et plus que la cuisine, c'est les valeurs aussi de notre mère qu'on essaie de retransmettre.
Parce que la cuisine de votre mère, elle est végane et bio?
Non. C'est la deuxième partie évoquée par Tarek. Donc il y a la partie héritage et la volonté de continuer à la faire vivre au travers de notre cuisine, mais aussi et surtout de mettre nos valeurs au cœur d'un projet commun. Et ça s'est fait par la cuisine.
Ok. Et comment vous en êtes venu à choisir, parce que c'est des choix assez radicaux, notamment l'aspect vegan, comment vous en êtes venu à ça?
Je pense que ça vient peut-être un peu plus de moi. Je suis devenu vegan du coup janvier 2020. Prise de conscience, après plusieurs lectures, plusieurs documentaires, plusieurs discussions. Avec mon meilleur ami, on s'est un peu lancé ce défi et depuis on est vegan. Et du coup, on a eu cette réflexion avec Leïla de se dire, ok, si on veut aussi avoir un impact positif sur l'environnement autour de nous, il faut qu'on fasse des choix assez radicaux. Au début, on pensait plus à une cuisine végétarienne. Une fois qu'on a commencé à un peu déblayer les recettes de notre maman, etc., on s'est rendu compte que si on enlevait la viande, on devenait vegan. Il n'y avait pas de fromage, très peu, enfin pas de crème, et très peu de produits laitiers.
Et pas d'œufs.
Et très peu, très très peu des œufs. En tout cas, dans la cuisine de notre maman, très peu. C'est-à-dire que tous les matins, elle pouvait nous faire des omelettes et tout, il n'y a pas de souci. Mais dans la cuisine marocaine, les entrées sont toutes véganes. Déjà, ça, on n'a rien changé. C'est vraiment les recettes authentiques de notre maman, on n'a rien touché. C'est plus la partie tagine qui pouvait être plus délicate. Mais c'était que la viande, en fait. Donc, à partir de où le poisson. Qu'à partir du moment où on enlevait la viande et le poisson, ça devenait tout de suite végane. Du coup, on a fait ce choix un peu plus radical d'avoir une cuisine qui est végane. Utiliser des produits bio, c'était à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi pour se reconnecter un peu, entre guillemets, à la terre et à la cuisine marocaine qui fait la part belle à l'agriculture marocaine, qui est une agriculture très développée, avec encore beaucoup de fruits et légumes qui viennent des zones rurales du Maroc, où j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de pesticides qui sont utilisés, en tout cas. Donc on voulait aussi se reconnecter un peu à cet esprit-là avec les produits bio.
Vous êtes aujourd'hui certifié bio ?
On n'a pas de certification, on est en discussion avec AVF, il me semble, pour avoir un label, mais en fait c'est assez difficile vu qu'on est traiteur et qu'on change nos recettes à peu près à chaque fois en fonction des personnes qui nous demandent, en fonction des événements et tout. C'est difficile d'avoir des labels parce qu'il faut labelliser une recette ou il faut labelliser un restaurant par exemple. Nous en tant que traiteur, c'est difficile, on a rencontré quelques difficultés, mais on est en train de travailler dessus. On travaille aussi avec Écotable pour monter notre dossier Écotable. Donc on n'a pas de label à proprement dit, mais on est à plus de 90% de produits bio, même plus.
Mais tous nos fruits et légumes sont bio, on se source chez le même producteur qui fait que du bio, donc au moins il n'y a pas de et c'est transparent. Tout le reste, les produits secs aussi, on a un autre fournisseur qui est 100% bio. Donc déjà, en passant par des fournisseurs qui sont que bio, il y a quand même plus de chances pour que ça colle. Et puis on commence à connaître les marques, à connaître nos produits. Donc même si nos recettes évoluent, les produits de base vont toujours être sourcés de la même manière.
Mmh. Ok. Le but de ce podcast, c'est de comprendre mieux cette cuisine marocaine. souvent, quand on pense à cuisine marocaine, on l'englobe dans un ensemble plus large qui est la cuisine maghrébine ou en tout cas la cuisine d'Afrique du Nord. Est-ce que ça pose un problème selon vous? Et du coup, en quoi la cuisine marocaine, elle se distingue des autres cuisines tunisiennes, algériennes?
Alors, pour nous, ça ne pose absolument pas de problème. J'envoie d'ailleurs beaucoup d'amour à nos confrères algériens, tunisiens, même la Libye, qui est aussi considérée l'Afrique du Nord, la Mauritanie aussi. On est des pays voisins. On a un grand nombre de points en commun, du fait de notre histoire, des tribus qui étaient déjà installées là depuis des années, de la géographie, de la langue, de la religion aussi, qui s'est installée au 7e siècle. Donc, pour nous, la culture, elle est très similaire. Donc, il est normal qu'on parle d'une cuisine maghrébine parce que dans les trois pays, on retrouve une cuisine colorée, une cuisine épicée et une cuisine très diverse. C'est aussi des pays dans ces cultures-là, la cuisine, elle occupe une partie prépondérante du quotidien des gens. C'est plus que juste cuisiner. C'est vraiment un moment de convivialité où on se retrouve en famille, entre amis. C'est plus qu'un simple repas. Au Maroc, on mange pas, ou dans le Maghreb, on ne mange pas juste pour se rassasier. On mange parce que c'est un moment de partage et que c'est un moment de plaisir. Donc je pense pour toutes ces raisons que il est normal qu'on peut parler de cuisine un peu maghrébine. C'est comme quand on parle de cuisine du Moyen-Orient, il y a des similitudes entre la Syrie, le Liban, la cuisine palestinienne aussi. Donc c'est tout à fait normal. Après il y a évidemment des différences. La cuisine marocaine est très connue pour être une des cuisines au monde qui soit les plus raffinées. Avec des associations notamment de sucré salé qui sont très présents dans la cuisine marocaine et une association je dirais colorée et assez sophistiquée finalement des épices. Dans chaque tagine les épices changent. Alors je sais qu'en France on aime beaucoup utiliser le ras el hanout ou ras el hanout comme on dit qui est un mélange d'épices, mais dans la cuisine marocaine, en tout cas dans la cuisine de notre maman, c'était pas du tout utilisé parce qu'en fait c'est un mélange. Et chaque tagine, chaque légume est associé soit à du gingembre et du curcuma, soit c'est seulement le curcuma, on met de l'ail, on met pas de l'ail. Donc il y a vraiment des associations en fonction des tagines. Et je pense que c'est ce qui fait la complexité et la beauté de la cuisine marocaine de nos jours.
Leïla, t'es d'accord avec ça ?
Je suis complètement d'accord. Moi, j'aime autant manger marocain qu'algérien ou tunisien. La seule différence, que je suis un peu sensible aux épices et surtout au piquant. Et nous, dans notre cuisine, on mange pas piquant, ce qui veut pas dire que dans d'autres cuisines marocaines ou dans d'autres familles, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment se dire que c'est propre à chacun, c'est propre à là où on a grandi. C'est vrai qu'on se prend régulièrement des remarques quand on est à des événements où on a des Algériens, des Tunisiens, mais surtout les Algériens, malheureusement, j'ai l'impression quand on dit par exemple la galette est galette marocaine, c'est même, donc c'est une galette feuilletée marocaine, ils apprécient pas qu'on précise que ce soit marocain dans notre carte, alors que nous c'est juste une manière de dire bah voilà, c'est de la cuisine marocaine, donc c'est une galette marocaine. Donc c'est vrai qu'on a souvent ce débat là avec certains clients.
Mais ça reste
vous dites que c'est marocain, c'est pas marocain, nous aussi on l'a, mais c'est pas le débat. Pour nous c'est vraiment pas une question d'appropriation, c'est juste pour expliquer que c'est pas une galette bretonne, c'est une galette marocaine ou maghrébine, on pourrait dire, mais voilà. Donc ça arrive quand même qu'il y ait ce débat là mais nous c'est pas un sujet pour nous.
Et on essaye surtout de dire que nous on le fait à la marocaine, c'est-à-dire que ça existe. On a fait d'ailleurs une collaboration avec le restaurant Majouja, qui est un restaurant dans Paris qui fait une excellente cuisine kabyle. Et on a fait un ftour ensemble, donc une rupture du jeûne. Et on a vraiment sur la carte joué sur... en fait, le tagine était algérien. On a laissé la chef algérienne faire le tagine justement pour se dire peut-être que tout le monde attend le tagine marocain, mais le tagine algérien était excellent aussi. Les entrées, on a fait des choses marocaines et on précisait, par exemple, que la harira, c'était la harira à la marocaine. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié en commentaire, mais c'est toujours comme ça, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Mais au final, toutes les personnes qui étaient présentes, elles étaient ravies de retrouver la cuisine marocaine et algérienne. On a passé un excellent moment, on a été accueillis comme des rois dans le restaurant Majouja, parce que c'était chez eux du coup. On s'est très bien entendu avec l'équipe, d'ailleurs depuis on a refait des événements ensemble, il n'y a aucune animosité, mais vraiment aucune entre nous. La chef elle-même disait ma harira préférée c'est la harira marocaine.
Ouh là là, attention, elle va tirer les foudres.
Non mais voilà, c'est à la perception de chacun et nous on s'approprie aucune cuisine. Encore une fois, comme on l'a dit, nous on représente la cuisine de Souad, donc c'est la cuisine de notre maman. Et je pense que chacun a la cuisine de sa maman, a ses souvenirs et associe tel ou tel plat à une cuisine particulière.
Alors il y a deux choses qui m'interrogent dans ce que vous dites. Déjà, ce que j'entends, c'est qu'en effet, il n'y a pas une cuisine marocaine, mais il y a autant de cuisines marocaines que limite de foyers, de personnes qui la font. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette diversité? Et tu as utilisé l'expression « c'est la cuisine de ma maman ». Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, en tout cas au Maroc, et peut-être encore en France, la cuisine est quand même encore cantonnée aux femmes?
Très bonne question, je vais y répondre. Sur le côté maman et le fait que la cuisine soit réservée aux femmes, il y a vraiment une distinction entre la cuisine de maison et la cuisine de restaurant, je trouve. Parce que quand on rentre dans une maison, on voit jamais que les hommes en cuisine. C'est très souvent des femmes qui cuisinent, la maman, les sœurs. S'il y a une aide domestique, c'est aussi une femme. Et donc, la cuisine est très souvent préparée par les femmes, ce qui ne veut pas dire que l'homme n'aide pas du tout, mais souvent, le rôle de l'homme, ça va être peut-être de faire des courses, d'aider à ranger, de s'assurer que, je sais pas, la table est bien mise, etc. Mais c'est vrai que dans la marmite, c'est la main de la femme.
Après, quand même, juste un gros big up à notre papa, parce que c'est le sous-chef de notre maman, et lui, c'est vrai qu'il faisait les courses, il passait beaucoup de temps en cuisine, à découper les légumes, enfin voilà, c'est vrai que comme dit Leïla, dans la marmite c'était toujours la main de notre maman, donc les épices etc c'était elle, mais il l'aidait beaucoup et c'était dans notre foyer en tout cas c'était assez égalitaire et nous aussi en tant qu'enfants on venait découper des légumes, éplucher des légumes, enlever la peau des pois chiches un par un quand vous voulez faire une harira pour une dizaine de personnes, je vous mets au défi. Leïla elle a bien connu, mais en tout cas dans notre foyer voilà il y avait quand même l'aide du père, mais je rejoins ce que dit Leïla, c'est quand même c'est vraiment dominé par la gente féminine dans les cuisines marocaines.
Je vous pose cette question parce que notamment j'avais fait une interview avec le fondateur de BMK cuisine donc africaine qui m'a dit le jour où j'ai annoncé à ma mère que j'allais faire ça, il était là, elle était un peu là, mais qu'est-ce que tu vas faire en cuisine quoi. Donc et comment votre maman elle a réagi au fait que toi Tarek tu te mettes à faire ça?
Pas très bien. Nos parents, disons.
Et pour d'autres raisons. Hein.
Oui, non, mais en fait, nos parents, ils ont une vision de l'éducation qui est qu'on doit faire des grandes études et avoir un haut poste. Enfin, je pense que c'est une vision quand même de la plupart des parents de leur génération. Et du coup, voilà, j'ai fait une prépa maths sup maths spé, j'ai fait une école d'ingénieur, j'avais un poste, un très bon poste chez Nike, une très grosse boîte aussi. Donc, enfin, au final, j'étais dans les meilleures conditions possibles, mais juste moi, j'étais pas heureux. Donc, c'était pas ça qui me rendait heureux. Et du coup, ils avaient du mal à comprendre mon choix de quitter cette stabilité d'un CDI, d'un bon salaire, d'une voiture de fonction. Enfin, tout ce confort, j'avais vraiment un gros confort de vie.
Et il faut savoir que ça a aussi été forgé, cette mentalité, par le fait que nos parents, c'est la première génération qui est venue du Maroc.
Oui.
Et que eux, ils sont venus à 18 ans, on leur a donné la chance de pouvoir étudier en France parce qu'on leur a accordé une bourse. Ils étaient bons élèves au Maroc, donc ils ont le droit de venir. Donc c'était vraiment une chance et c'était perçu dans leur famille comme voilà quoi, c'est vraiment l'avenir de la famille, on les envoie et on peut pas envoyer tous nos enfants. Donc quand ils se sont retrouvés à faire leurs études en France, ils sont partis de rien. Les premiers jours ils dormaient chez les cousins s'ils avaient des cousins et sinon c'était vraiment la débrouille. Et ils ont fait des études chacun de leur côté et ils ont toujours eu ce sens du travail mais pas forcément du bonheur comme nous on a aujourd'hui de se dire j'ai besoin d'être heureux au travail. Alors évidemment ils aimaient leur métier, ça va, ils ont
surtout
eu des métiers voilà, étant enseignante passionnée, mais c'est pas la priorité. La priorité c'est pouvoir nourrir son foyer comme beaucoup de familles, mais du coup c'était pour préciser que c'est aussi empreint de en fait quand on arrive à 18 ans et qu'on a rien dans un nouveau pays, qu'on doit s'adapter, apprendre une nouvelle langue, des nouveaux codes, etc. Notre bonheur il passe après, c'est déjà est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins.
On s'éloigne un tout petit peu sujet mais c'est très bien, moi ça m'intéresse, de toute façon c'est important pour les auditeurs, les auditrices aussi de comprendre à qui ils parlent et comment ils en sont venus là.
Ouais.
Je reviens à la question sur la diversité de la cuisine marocaine, parce que du coup si vous deviez définir la cuisine marocaine, vous feriez comment?
C'est une cuisine qui est quand même chaude, j'ai envie de dire. Chaude par les couleurs déjà, parce que les légumes qu'on utilise sont quand même beaucoup des légumes d'été, parce que l'été dure plus longtemps et qu'on a l'occasion de manger des tomates, par exemple, beaucoup plus que 3 mois dans l'année. Donc quand on a de la tomate, des poivrons de 3 couleurs, des aubergines, etc., c'est beaucoup de couleurs et les épices rajoutent cette couleur. Donc je dirais chaude et colorée.
Ouais, et gourmande.
Oui.
Ouais, moi, si je peux me permettre de revenir un petit peu quand même à l'histoire de la cuisine au Maroc et au Maghreb plus largement, parce qu'avant, c'était pas autant délimité. Pour moi, ça démarre avec les premiers habitants qui sont les Amazirs, qu'on appelle aussi berbères, mais qu'on ne devrait pas parce que c'est un terme péjoratif. Donc les Amazighs, qui sont issus de plusieurs tribus. C'est pas une seule tribu, les Amazighs, qui parlent des dialectes différents. Il y a le Schleur, il y a le Kabyle, il y a les Tamazirt, il y a les Rifins. Voilà, c'est des différentes tribus à travers le Maghreb qui étaient installées là depuis des siècles et des siècles, et à qui on doit déjà le couscous. Donc voilà, pour qu'on arrête la bataille du couscous marocain, algérien, tunisien, il y a des autant de couscous qu'il y avait de tribus amazighs, et du coup vraiment on leur doit le couscous, c'était un plat qu'ils faisaient beaucoup. On leur doit les tagines, notamment de légumes, qui sont connus pour venir des, on va dire plutôt de la montagne et des milieux plus ruraux.
Parce qu'ils sont cuits en terre cuite, c'est ouais. Vraiment il y a tout un procédé derrière de fabrication aussi de là où on va cuire, c'est cuit au feu, donc il y a ouais. Pas de four, il y a pas de plaque électrique évidemment.
Oui, là, on parle de
il y a vraiment tout ce qui englobe aussi le produit, donc ouais. La manière de cuisiner.
Tout à fait. Et il y avait aussi évidemment les pains. On leur doit les msemen, on leur doit les barrer, les krimiltrou. Tout ça, c'était déjà fait par les tribus amazighs. Et en fait, c'était principalement constitué de légumes, légumineuses, et aussi beaucoup de céréales. Donc évidemment, pour les transformer, le pain, mais aussi pour faire des soupes.
Tu veux dire que c'était une cuisine végétarienne ?
Ouais, tout à fait. C'était tout à fait une cuisine végétarienne. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais citer un extrait du livre « Le Maroc végétarien » du 15e au 18e siècle de Mohamed Houbaïda. Et il dit... Avant l'introduction des structures industrielles, les populations du Maroc étaient végétariennes, vivant essentiellement de céréales, de légumes, frais et secs et de fruits. Mais il s'agit là d'un végétarisme involontaire. Je pense que cette notion est très importante. Selon la formule des sociologues britanniques Alan Birdsworth et Teresa Cale, sans aucune conception médicale, écologique ou éthique. Car si dans le temps présent le végétarisme est une option, dans le passé c'était une obligation. Par nature, les hommes préfèrent la viande, l'aliment noble par excellence. Ils en raffolent quand l'occasion le permet lors des fêtes religieuses ou familiales. Mais l'environnement, le niveau de vie et les crises de subsistance font que les hommes étaient tenus de se contenter d'un menu constitué de grains, d'herbes et de racines. Donc voilà, c'est pour parler un peu de l'histoire. Ça, c'est quand même un débat que j'ai assez souvent, notamment quand je suis en famille et que j'explique pourquoi je suis vegan. Et vraiment revenir à cette essence... de la cuisine au Maroc et au Maghreb, c'est hyper important, je trouve, de revenir à il y a même 2-3 générations en arrière. C'était principalement végétarien, encore une fois pas par choix, mais parce que c'était comme ça que se constituait la cuisine et c'était ce qui était accessible aux populations.
Oui, on retrouve un peu cette idée dans la cuisine italienne, dans la cucina povera. C'est en fait on cuisine avec les légumineuses, les céréales, les légumes parce que bah en fait c'est ce qui est accessible quoi.
Et exactement. Et après, il y a certaines parties du Maghreb où se concentre la pêche, notamment dans le nord-ouest de la Tunisie, à Carthage. On mange beaucoup de poissons. Il y a aussi Essaouira au Maroc, par exemple, où la pêche est très présente. Évidemment, dans ces parties-là, ils mangeaient aussi du poisson. Et en ce qui concerne la viande, ils avaient des élevages de moutons, chèvres, vaches, mais c'était surtout pour le lait. C'était très rare qu'ils mangent ces viandes-là. Ils mangeaient plus des volailles, lapins, pigeons. C'était les choses un peu plus faciles à manger à l'époque. Mais tout ce qui est élevage bovin, on va dire, entre guillemets, c'était vraiment plus pour avoir le lait toute l'année, pour pouvoir boire du lait, faire du fromage frais, tout ce genre de choses. Et c'est plutôt, on va dire, après 632 et la mort du prophète, qu'il y a eu au Moyen-Orient et les Arabes ont commencé à arriver du Moyen-Orient vers le Maghreb, en passant par évidemment l'Égypte, la Libye, etc. Et c'est là que vraiment ils ont conquéri en presque 60-65 ans la totalité du Maghreb. Et ils ont amené avec eux des nouvelles, déjà un régime un peu alimentaire imposé par l'islam, mais qui est assez simple, c'était juste pas de porc, pas d'alcool. Bon, jusque là, c'était pas très compliqué. Mais c'est surtout qu'ils ont ramené beaucoup d'aliments du Moyen-Orient, notamment les épices comme la cannelle, noix de muscade, gingembre ou encore curcuma qu'on retrouve vraiment
beaucoup.
Dans tous les tagines de nos jours. Ça, c'est arrivé avec les Arabes, donc au 7e siècle. Et la deuxième phase, on va dire, un peu de développement de la cuisine marocaine ou maghrébine, comme on veut l'appeler, c'était la conquête de l'Europe du Sud. Quand la tribu des Al-Andalus se sont installés notamment en Espagne et au Portugal, pendant près de 800 ans, cette dynastie elle a développé vraiment l'agriculture dans ces pays-là. Ils ont trouvé une terre qui était hyper fertile et ils ont pu ils ont pu avoir de nouveaux aliments tels que l'aubergine qui est apparue à ce moment-là. Et c'est surtout aussi des manières de cuisiner qui se sont créées. Avec des préparations comme la friture à l'huile d'olive ou les aliments qui étaient farcis. les marinades dans l'huile, dans les épices, ça a paru vraiment à cette époque-là dans les tribus al-andalouses, et le mélange des fruits à coque et du sucré salé qui vraiment venait du Moyen-Orient et de la cuisine perse. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette cuisine.
Et alors comment, je ne sais pas si vous savez ça, mais comment on en arrive aujourd'hui à une cuisine où en tout cas le cliché qui est véhiculé, c'est quand même un plat autour de la viande ou du poisson. Comment a été intégrée ces protéines animales ?
La colonisation.
Ouais. Il y a beaucoup d'influences occidentales, bah, tout simplement de la colonisation. On le voit dans beaucoup d'aspects de la société marocaine, en tout cas pour celles qu'on connaît. Au-delà de la cuisine, la langue française, les habitudes de cuisine. Aujourd'hui, tout le monde mangeait avec des couverts alors qu'avant, on mangeait avec les mains. L'alcool a été introduit à table beaucoup aussi. Donc, bon, il y a de plus en plus d'influence de l'Occident sur le Maroc, mais qui vient voilà, de la colonisation qu'a ouais. connue le Maroc et qui est encore vraiment très présente. Quoi.
Mais est-ce que tu veux dire que on est passé d'un couscous qui était, pour reprendre cet exemple un peu emblématique, vegan? Un couscous qui est devenu bah, royal avec 3 viandes.
Oh là là, l'enfer. Couscous royal, surtout pas répéter ce mot s'il vous plaît. Poil Cyrus. Non mais en vrai, le couscous, il n'était pas vegan à chaque fois. Il faut quand même dire que le couscous de base, que l'on connaît en tout cas au Maroc, dans nos familles, c'est beaucoup de semoule, énormément de légumes. Tous les légumes de saison qu'on peut trouver sur le marché, on prend tous les légumes en sauce. Et il y a une petite partie de viande en général qui est déposée vraiment au milieu, au centre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est bien rassasié avec la semoule, les légumes, on a ce petit morceau de viande. Alors attention, quand on a un plat au Maroc, donc on partage en général ces plats ronds, il faut rester dans sa ligne. Faut pas, c'est pire
donc
que les deux
laisse...
bancs sur l'autoroute. Hein. Faut pas aller à gauche, à droite. C'est vraiment un manque de respect. Vraiment, on va dans sa partie. Et donc, on mange d'abord la semoule, les légumes. On est assez rassasié. À la fin, on a ce petit morceau de viande. En général, c'était du mouton. Maintenant, ils mangent un peu plus de l'agneau. Mais
c'est pareil. Hein.
Comment ?
C'est pareil. Hein. L'agneau, c'est le petit du mouton.
Oui,
non, mais c'est pas... comme une viande
c'est
qui
moins
est moins
fort.
Forte.
Ouais, ouais.
Je suis vegan, mais je connais quand même les viandes. et aujourd'hui, c'est même encore comme ça. Aujourd'hui, de nos jours, c'est comme ça qu'il est préparé par notre grand-mère qui fait le couscous tous les vendredis, midi, depuis toujours. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'il est de base. Et le couscous royal, c'est tout à fait un élément de la colonisation. Quand j'ai demandé à ma mère, parce que étant jeune, j'ai grandi en France, évidemment, je voulais
mais
couscous
moi des
royal.
Des merguez.
Quand j'ai demandé à maman des merguez, je pense qu'elle a mis 10 ans à me mettre une merguez dans le couscous, vraiment, parce que j'ai dû la saouler à chaque fois qu'elle faisait un couscous pour ça, parce que j'en avais envie, parce que c'est ce que je voyais, mais c'était complètement à l'encontre de la manière dont est préparé le couscous, en tout cas dans nos
Après,
familles.
Après, on en mange de la merguez, mais en grillade, sur ouais. un autre plat.
Oui, jamais tu veux dire que c'est vraiment une occidentalisation du couscous, le couscous
tout
royal, quoi. Ouais,
ouais, tout à fait. Les
mais
boulettes,
en plus, royal,
pareil.
Nous, on n'utilise même pas ce terme. Royal, pour nous, c'est pas réservé à la cuisine, hein. C'est précieux, quand même.
Ouais.
Mais ce que disait Derek par rapport à la place de la viande dans le plat, c'est-à-dire que même quand il y a de la viande, c'est important, elle est toujours au centre. Même dans les tagines, on a notre marmite, on va toujours prendre la viande, la disposer et après mettre les légumes autour, décorer tout autour avec des carottes, le citron confit, peu importe ce qu'on a, des aubergines, la sauce. Mais la viande reste toujours au centre. Ce qui prouve que c'est pas la première chose qu'on mange dans le tagine
okay.
et qu'on déguste.
Okay.
Même si elle a une place assez centrale.
Oui, j'allais dire quand même, dans le tagine, il y a des gros morceaux de viande.
Oui, oui, bien sûr, c'est assez central, mais on débute toujours par la sauce, les légumes, avant d'arriver à la viande.
Ouais. Ouais. Mais ce serait donc la colonisation qui, en tout cas, a augmenté la part de viande ou de produits carnés dans l'assiette.
La colonisation et la modernisation,
oui,
évidemment,
industrielle.
Forcément, le Maroc s'est aussi développé et le fait d'avoir industrialisé l'agriculture a fait que la viande était beaucoup plus accessible. Et comme je disais tout à l'heure, la viande, évidemment, c'est quelque chose qui plaît à l'homme, c'est bon, on a envie de le déguster. Donc, plus c'était accessible, plus les gens commençaient à consommer de la viande au Maroc. Mais encore aujourd'hui, la consommation excessive, parce que c'est le cas, de viande ou de poisson, elle se fait notamment dans les villes.
Oui, c'est ça.
Dans les milieux ruraux, on a pas mal voyagé au Maroc. Quand on voyage, c'est vraiment 95% de légumes. Et justement, les gens sortent un peu la viande quand il y a des gens qui arrivent, quand il y a des invités, quand on célèbre l'Aïd, quand il y a vraiment un événement.
C'est pas tous les jours.
Voilà.
C'est pas,
c'est pas du tout tous les jours. Le petit déjeuner, si vous allez dans les petites, les petites shops dans n'importe quel village au Maroc. On vous sert en fonction des régions, soit la bissera, soit la serouda, qui sont des purées de pois, des purées de fèves, des purées de pois chiches, chaud avec un filet d'huile d'olive, un morceau de pain. Évidemment le thé à la menthe bien sûr, mais c'est comme ça qu'on mange encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans les villes au Maroc aujourd'hui, c'est l'abondance de la viande, et parce que en fait on veut tellement recevoir et être généreux avec nos invités, etc., qu'on met plein de viande dans nos tagines. Mais c'était pas forcément le cas il y a encore quelques années.
Alors j'entends qu'il y a vraiment une différence entre la cuisine marocaine dans les villes et dans les campagnes. Il y a l'air aussi d'avoir, à ce que vous dites, une différence entre la cuisine marocaine en France et la cuisine marocaine au Maroc.
Ah ouais.
Tout à fait. Ok. Donc, alors il y a deux choses. Il y a la cuisine marocaine dans les foyers,
ouais.
Dans
les foyers en France, ouais, qui est assez similaire parce que on est encore sur des générations qui sont très proches du Maroc, qui ont soit grandi là-bas, soit qui y vont très régulièrement. Et pour ça, chez la majorité des personnes, les amis de nos parents, notre famille, etc., chez qui on mange même au Maroc, on a quand même le même goût. Parce que on a aussi la chance d'avoir beaucoup de produits qui sont importés du Maroc, les épices qu'on retrouve, le safran par exemple, la semoule sous toutes ses formes. Donc, on a la possibilité de reproduire les mêmes plats. Et il y a les restaurants où c'est différent parce que du coup, on fait en plus grande quantité et on s'adapte aussi au consommateur qui est français. Où là, bah, il y a les restaurants qui vont rester assez classiques, assez traditionnels, mais ça va être souvent des petits restaurants, des endroits où on mange peut-être plus rapidement. Enfin là, on en voit par exemple à Belleville, on n'est pas loin. C'est vraiment de la cuisine de famille où les dames font le pain devant nous. Enfin à Pantin aussi, par exemple, on le voit beaucoup. Mais il y a aussi quelques restaurateurs qui sont sortis un petit peu de la cuisine traditionnelle pour proposer des choses un peu plus modernes, mais qui vont faire des mélanges de ce qui existe chez nous. Par exemple, le msemen dont on parlait, la galette, dans lequel ils mettent maintenant de la viande hachée, ils font des sandwichs avec, donc pour manger sur le pouce, parce que la cuisine marocaine est quand même très tagine, sauce, etc., à part les grillades, et même les grillades, il faut les manger avec des salades. Donc ça a été un peu adapté dans certains restaurants, et voilà, le truc le plus poussé, ça va être le couscous royal. Mais globalement, on retrouve quand même une cuisine qui est assez similaire en France. Après, nous, pour être honnête, on mange presque jamais dans des restos marocains. Donc, on connaît peut-être moins bien que certains Français.
Ce que j'entends, en tout cas, c'est qu'il y a eu une créativité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a transformé des plats pour les rendre plus pratiques, par exemple manger sur le pouce. Mais il y a aussi eu, on a changé un peu les plats pour peut-être les habitudes alimentaires des Français, type le couscous royal où on met plein de viande.
Ouais, tout à fait. Et cette créativité, elle est pas mauvaise, hein. Au contraire, il y a plein de choses qui ont été faites par des restaurateurs comme Yemma ou Gamila, enfin qui sont aujourd'hui plus répandus. Nous-mêmes, on fait aussi des sandwichs avec le msemen parce que on essaie aussi de s'adapter et de réinventer un peu aussi la street food marocaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les restos marocains, c'est dur de retrouver la même cuisine que celle qu'on a au Maroc. Au Maroc, n'importe où vous arrêtez, vous allez très bien manger. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais voir un panneau qui indique cuisine fait maison. Toute la cuisine est fait maison au Maroc. Il n'y a pas de recongelé, surgelé ou de produits ultra transformés. Enfin, c'est vraiment une cuisine maison, quelle que soit la petite shop où on va. Après, évidemment, je ne parle pas de tous les snacks qui se développent, les sandwichs et les tacos et les McDo et compagnie. Mais dans n'importe quelle ville ou village, si vous arrêtez dans une petite shop, quelqu'un qui cuisine, qui fait maison, qui achète ses produits la veille au marché et qui vous prépare quelque chose comme vous le voulez, en fait. Ils ont une carte ou ils n'ont pas de carte, ils proposent toujours la même chose ou ils ont des plats du jour, entre guillemets, en fonction de l'arrivage. Mais c'est toujours une cuisine qui est faite maison et qui, du coup, est excellente.
Ça nous fait le lien parfait avec l'éco-responsabilité. On a entendu, c'est une cuisine à l'origine qui est avant tout végétale. Donc, sur cet aspect-là, c'est clair, même si depuis, ça a un peu changé. Sur les saisons, tu l'as dit, Leïla, c'est quand même, les saisons sont quand même différentes au Maroc. On a un été qui est plus long. Mais est-ce que quand même, en hiver, on mange la même chose qu'en été au Maroc? Et en France, en tout cas, on a un peu cette sensation-là. Quand on va dans un restaurant marocain, il y a des courgettes toute l'année, quoi.
Oui, je pense qu'initialement, encore une fois, avant l'industrialisation, on mangeait que de saison au Maroc. Et de nos jours, c'est encore encore quand même le cas. Je veux dire, si on, quand on va chez notre grand-mère, on sait que le tagine au coin, ça va être que à la saison du coin. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui sont tout à fait respectées. Pareil pour les fèves. L'hiver, on voit quand même beaucoup moins d'aubergines ou de courgettes dans les plats. En fait, on essaie d'adapter. Il existe tellement de tagines différents avec des légumes différents qu'en général, dans nos familles en tout cas, on va au marché, on prend les légumes de saison et on en fait un tagine. Maintenant, l'industrialisation fait qu'aujourd'hui, il y a des grands supermarchés dans tout le Maroc qui proposent des tomates et des aubergines toute l'année, qui sont principalement du Maroc, mais qui sont quand même qui peuvent être produites sous serre, etc. Et qui il y a un petit peu d'importation aussi d'Espagne. Et du coup, on a cette sensation aussi que les saisons ne font plus partie de la réflexion en fait dans la cuisine marocaine au Maroc. Et que les gens veulent manger de l'aubergine toute l'année.
Quand c'est mis à disposition, en fait, et qu'on va au supermarché et que tout est sous nos yeux, on réfléchit beaucoup moins que quand ça n'est pas là. Et que du coup. Et après, il y a quand même le facteur prix qui évolue, enfin, qui joue. Les Marocains, ils sont quand même soucieux d'avoir un prix au kilo qui est le même, enfin, ou en tout cas, qui est dans leurs habitudes. La dernière fois, on est rentré l'été, on a entendu parler tout le mois des oignons qui avaient dépassé, je crois, les
18 dirhams le kilo, je crois.
C'est 2 euros le kilo, ce qui est énorme pour des oignons, alors que c'est quand même la base pour toutes les sauces, c'est des oignons, c'est des oignons confits. Revenu comme tu veux. Mais les oignons, en tout cas, c'est important. Et donc, il y a quand même ce facteur prix qui va évoluer en fonction de la saison, de si c'est importé ou pas. Mais bon, là, quand on parle de supermarché, ça reste une petite partie de la population qui va acheter au supermarché. C'est celle qui a la voiture, qui va pouvoir aussi avoir un niveau de vie qui lui permet d'acheter. Parce que Assima, c'est comme Carrefour, hein. C'est vraiment les prix, c'est assez similaire. Contrairement à, en fait, la majorité qui va quand même aller au marché. Et au marché, c'est ils peuvent pas se permettre d'importer autant
mais au marché on a quand même c'est quand même abondé de produits qui poussent sous serre, etc. On a quand même une industrialisation de l'agriculture au Maroc, on peut pas le nier. De base, on a une terre qui est très très fertile. La terre marocaine, elle est connue pour être très fertile. On arrive à faire pousser à peu près tout et à peu près toute l'année. Mais l'industrialisation quand même a fait que c'est vrai, il y a plus de saison. Parfois on rentre et on dit aux gens mais ça c'est pas de saison, et ils disent bah si, enfin moi je l'ai trouvé sur le marché donc c'est de saison quoi.
Bien sûr.
Il y a aussi ce truc de, comme disait Leïla, c'est disponible donc en fait on pense que c'est de saison.
Donc il y a beaucoup moins une agriculture vivrière aujourd'hui. Vous dites que vous avez voyagé au Maroc. Est-ce qu'il y a encore quand même des gens qui ont un jardin et qui cuisinent avec les produits de leur jardin quoi?
Jardin, non.
On n'est pas très potager au Maroc.
Ouais, non.
Même dans les grands jardins, on ne va pas cultiver nous-mêmes. Bah, sauf ceux qui sont vraiment passionnés. On a quelques membres de notre famille qui ont des petites fermes en dehors de la ville.
Non, mais sinon, globalement, dans la partie rurale du Maroc, on appelle ça les flah, donc c'est les agriculteurs, en fait. Et chacun a sa spécialité. Donc, c'est pas vraiment le truc de dans mon jardin, je fais tout pousser et je me fais à manger. C'est plus de, on vit en communauté et dans le village, évidemment, il y a celui qui a les élevages, il y a celui qui a le lait, il y a la personne qui a tel légume. Et on se retrouve sur la place centrale du marché, on fait nos courses, normalement, quoi. Et chacun repart avec des produits très locaux parce que c'est fait dans le village ou autour. Et c'est cuisiné encore une fois le jour même, fait maison. Donc, on est vraiment dans une approche très différente entre le milieu rural et la ville.
Comment vous, du coup, à la cuisine de Swad, vous avez intégré cette saisonnalité?
Nous, c'est difficile sans l'être. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que comme on n'est pas un restaurant, on fait des recettes en fonction de l'événement qu'on va produire. Donc, si c'est un festival, il faut absolument des sandwichs. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sandwich? Donc, on va quand même partir de la base de quelle forme de plat on va faire. Est-ce que ça va être un tagine? Est-ce que ça va être des petites portions individuelles pour des buffets? Donc, ça va être la première étape avant de penser à la saisonnalité. Quel type de plat? Et après, c'est sûr que la saisonnalité entre en compte. Ça a été difficile au début parce que on a certains best-sellers et surtout des choses vraiment incontournables qu'on adore, comme le caviar d'aubergine, qui est vraiment beaucoup de gens arrivent et disent est-ce que vous avez du caviar? Donc c'est plus difficile quand on va être commandé par une entreprise ou une personne en particulier qui presque nous demande pour ça. Mais on va essayer de proposer des alternatives. Par contre, quand c'est nous qui faisons la carte, par exemple sur un festival ou street food
sur une résidence,
là on est libre de composer notre carte. Quand on est libre, forcément, on va faire des choix qui sont un peu plus radicaux parce que bah de toute façon si c'est pas la carte personne va le demander donc
ouais non. Et puis le fait ce qui est assez facile c'est toute la partie de tagine en fait c'est tellement il y a tellement de tagines différents qu'on peut se permettre de faire des tagines de saison là-dessus il y a pas de souci le couscous on adapte tout le temps les légumes qu'on met dans
mais ça veut dire que tu peux faire un couscous au potiron.
Oh mais bien sûr, bah, okay. Le potiron c'est un des 7 légumes du couscous.
Ok.
Ah ouais. Non,
donc
cas,
l'hiver,
moment, il y avait
en fait,
tout
le couscous c'est plus simple à faire l'hiver que l'été.
Ouais.
Parce que c'est
plus de légumes,
pommes de terre,
ouais, navets, patates
navets,
douces.
Ouais,
après voilà, il y a la courgette qui est plus l'été. Mais par exemple, justement l'hiver dernier, on a eu pas mal de prestations avec des couscous. On a évidemment pas mis la courgette, mais en fait on a trouvé une forme de courge qui était verte. J'ai oublié le nom. Et du coup, on l'a découpé un peu comme une courgette pour avoir ce côté coloré vert de la courgette sans mettre de la courgette. Mais comme dit Leïla, il y a la partie zalouk, flamatécha, donc tous ces entrées qui sont à base d'aubergines, de poivrons qu'on retrouve presque toute l'année au Maroc et qu'ici, évidemment, non. C'est difficile parce qu'on n'a pas notre propre restaurant. Donc, on est attendu sur un zalouk. Une cuisine marocaine sans un caviar d'aubergine, c'est presque impossible. Donc, quand c'est l'été, c'est plus facile. On en fait plein et avec des belles aubergines. Quand c'est l'hiver, on essaie d'éviter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si un client nous le demande, on va le faire.
Ouais, est-ce que vous essayez d'expliquer quand même au client, bon, bah, c'est pas la saison, peut-être on peut faire autre chose?
Ouais, on essaie de l'expliquer. Après, quand on veut se mettre en avant dans un événement ou quoi, c'est vrai qu'on sait qu'en plus, notre zalouk est très très bon. C'est celui de notre maman et on a eu beaucoup d'attestations de personnes qui connaissent très bien la cuisine marocaine, qui sont marocains, qui nous ont dit qu'il était excellent. Donc, on a aussi envie de le mettre en avant, mais on réfléchit à des solutions déjà maintenant pour faire du zalouk l'été, pouvoir le conserver. On est en contact avec certains fournisseurs pour essayer de voir comment on peut le mettre en bocal et le réutiliser du coup pendant l'hiver. On va devoir faire des grosses quantités pour faire ça, mais...
Ouais, ça demande beaucoup de travail et je pense qu'on va plus vite de proposer une alternative.
Ouais. On est quand même dans cette réflexion-là pour pouvoir l'avoir toute l'année. Après, c'est vrai que si on a un restaurant... bien sûr qu'on peut dire bah aujourd'hui il y a pas de zalouk parce que c'est pas la saison tout simplement et on aura des cartes qui vont différer en fonction
et c'est votre envie ça d'avoir un restaurant?
C'est mon envie. Je vais pas engager la parole
de Leïla.
Mais en tout cas oui moi c'est clairement l'envie, c'est là où j'ai envie d'emmener ce projet parce que comme on vous l'a dit le but c'est d'avoir un impact social et environnemental positif et pour nous l'impact social, ça passe par donner une stabilité aux employés. C'est vrai que dans l'événementiel, c'est très difficile d'avoir d'employer des gens tout le temps. C'est par vague. Il y a des moments où on travaille 80, 100, 120 heures semaine et il y a des moments où on n'a rien. Donc, pour déjà pouvoir avoir cette stabilité, on aimerait bien avoir un restaurant, qu'on puisse avoir une équipe qui travaille sur place à qui on peut donner justement cette stabilité, qu'on puisse aussi plus s'amuser et faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire et du coup pouvoir être peut-être plus de saison ou autre. Mais on peut faire plein de tests en restauration, on peut s'amuser, on peut vraiment apporter plus notre patte et continuer notre activité à côté de traiteur. On veut pas du tout l'arrêter, mais au moins avoir du coup un restaurant. Et les gens nous le demandent très 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 souvent, où est-ce qu'on peut vous retrouver, il est où votre restaurant. Il y a même maintenant des gens, en fait depuis pas longtemps, sur Google Maps notre siège social il est dans Google Maps, et des gens ils viennent à l'adresse, ils nous disent je vois pas le restaurant, ou ils nous appellent pour réserver une table pour deux. Donc on sent qu'il y a une demande. Et on a envie de le faire. Après on sait que c'est pas facile, on vient pas de ce milieu là de la restauration, mais on apprend. Ça fait déjà 2 ans qu'on s'est lancé, on apprend. Et là on vient d'être incubé chez Singa, qui aide du coup soit les nouveaux arrivants, soit les locaux qui ont des projets pour aider les nouveaux arrivants à se développer, à créer un business plan. Donc là, on va se concentrer dans cet incubateur sur la création du restaurant, en fait, et d'un business model, etc.
Qui est-ce qui cuisine ?
On cuisinait beaucoup tous les deux initialement, et j'avais pris toute la partie sucrée, donc les crêpes mille trous, les galettes,
la préparation
du
pain.
Et voilà, tous les desserts. Et plus ça avançait et plus moi j'avais envie de sortir de la cuisine. Patarek, lui il a les mains dedans, il adore ça, mais moi je trouve ça très fatigant physiquement, et je voulais me concentrer sur d'autres projets aussi en parallèle. Donc j'ai laissé la main à des dames qui font ça très bien. Aujourd'hui on a 2 dames qui travaillent avec nous.
Coucou Samira et Halima, vous êtes exceptionnelles.
Et qui sont des mamas, en fait. C'est des mamans qui cuisinent tous les matins pour leur famille et qui maîtrisent mieux que moi, franchement, le pain, les galettes. Elles ont un débit impressionnant. Ouais. Donc, Tarek continue de cuisiner. C'est lui qui est chef aujourd'hui et qui dirige les équipes en cuisine. Moi, ça arrive que je donne un coup de main, mais c'est plus ce qui me passionne.
Et comment, du coup, cet aspect vegan, il a été pris par la communauté marocaine? Je pense notamment à ces mamas qui cuisinent, qui quand même ont pu être surprises, et de façon générale...
Il y a eu notre famille avant d'en arriver aux mamas, mais...
Notre famille, c'était compliqué.
Ils comprennent pas?
Non, ils comprennent pas du tout. Moi, j'ai fait une transition assez brutale, entre guillemets. Je suis passé de je mange du poulet matin, midi et soir. Enfin, je mangeais beaucoup, beaucoup de viande.
Carnivore.
Ouais. Et je disais aux gens autour de moi, s'il n'y a pas de viande dans mon plat, c'est pas un plat, etc. Donc vraiment, c'était assez... je suis très noir et blanc. Je n'ai pas beaucoup de nuances. Je pense que Lila peut confirmer. Et du coup, je suis passé direct à vegan. Et j'ai commencé à, en plus cuisiner. Quand on est vegan, il faut quand même... Il faut pas se cacher, il faut en mettre plus d'efforts et cuisiner plus. Et tout de suite, c'est la peur des carences, et pourquoi, et tu peux manger au moins ça. Et franchement, encore aujourd'hui, mon père, il me propose du poulet sans même réfléchir que ça fait 3 ans que je mange pas de poulet, quoi. Enfin, et il me dit, tiens, prends, mange, c'est bon, quoi. Enfin, en fait, c'est un réflexe. Donc, ça a été difficile, ça a été pas compris, mais ça a été accepté. On vit dans une famille où on va pas te discriminer, on va pas te dire tu manges sur la table d'à côté, mais juste
mais c'est devenu le sujet de discussion à chaque fois qu'on passe à table, et c'est fatigant de devoir se justifier. Moi, je suis moins concernée parce que je suis pas aussi catégorique que Tarek sur la viande, mais pendant un an minimum, chaque repas, en fait, ou à chaque première fois que tu mangeais avec une personne qui n'était pas au courant, c'était le débat à table, et c'était un peu nous contre tous, donc c'est un peu fatigant. Après, sur le projet en lui-même, on est très soutenus. C'est pas là, c'est plus sur nos choix personnels, sur les choix de Tarek, où ça a été difficile. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas manquer, tu vas ceci, cela. Mais sur le projet en lui-même, ils sont pas choqués. Au contraire, ils sont très contents qu'on continue de cuisiner la cuisine marocaine, qu'on la mène en France, enfin, en tout cas, la cuisine de notre famille.
Oui, pour eux, vous la transformez pas en la véganisant.
Non, je pense qu'ils s'en rendent peut-être pas compte aussi parce qu'ils ont moins d'occasion de la goûter, mais ils savent surtout qu'on fait un effort de fou pour cuisiner. Enfin, de faire de bonnes recettes, on est hyper investi, ils nous suivent tous sur les réseaux, etc. Donc, le côté végé de notre projet, ils le critiquent pas du tout parce que le projet passe avant tout, et de toute façon, ils savent que ça plaît, ils savent que ça marche bien, donc c'est ce qu'ils nous souhaitent. Hein.
Oui, et puis, comme tu disais, j'ai l'impression que de toute façon, le cœur de la cuisine marocaine, elle est végane. Enfin, je pensais au dessert, tu disais, je m'occupe du sucré, mais en fait, dans les pâtisseries marocaines, il n'y a jamais de protéines animales. Enfin, il y a le miel qui.
Il y a le miel, voilà, qui peut poser débat. Ouais. Nous, on utilise le sirop d'agave, comme ça, il n'y a pas de débat. Mais il y a quand même. Les pâtisseries marocaines en soi, il y en a pas mal qui sont dorées au jaune d'œuf, etc.
Ah, okay.
Mais dans les desserts, c'est vrai qu'il y a très peu... Enfin, c'est tout de suite vegan, les barrel, donc c'est des crêpes miltrou. Il y a, par exemple, on propose aussi la jawhara, c'est une pastilla décomposée avec... c'est fait normalement avec du lait, on fait avec du lait d'amande, donc très facile aussi à remplacer. Donc c'est quand même, oui, une base qui est déjà assez vegan, mais c'est vraiment les plats principaux, les tagines, où là ça a été plus difficile. On a fait deux choix, c'est... Sur certains tagines, on remplace la viande par des alternatives végétales. Et sur certains tagines, on remet le légume au cœur du tagine. Par exemple, un tagine artichaut, fèves, petits pois, pommes de terre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rajouter un substitut. On a déjà tout l'apport nécessaire en protéines, parce que c'est toujours la question, mais aussi dans tous les autres aliments dont on a besoin. Et donc, ces plats-là, ou le couscous, par exemple, il y a des gens qui nous disent « Pourquoi vous rajoutez pas des merguez véganes ou des boulettes véganes sur le couscous ?» C'est parce que c'est pas comme ça que c'est fait chez nous. Et du coup, on a simplement pas mis le petit morceau de viande à la fin au milieu. On a gardé tous les légumes. La tfeya, qui est la spécialité de la région de Fès, parce que c'est de là où on est originaire, c'est cette petite compotée d'oignons et de raisins qu'on met par-dessus avec normalement du miel, on met du sirop d'agave et de la cannelle. C'est ce qui vraiment fait la différence sur notre couscous, par exemple. Mais en tout cas, on a fait ces choix-là sur la partie tagine, et puis les entrées et les desserts, on n'a pas changé grand-chose. Et la réaction des gens, elle est très différente. Il y a des gens qui sont hyper contents, il y a des gens qui nous disent « Je suis marocain, végétarien, mais j'ai jamais cru que ça allait être possible, c'est incroyable, on nous demandait devis de mariage, etc. » Et il y en a d'autres qui nous disent... Il y a certaines réactions qui m'ont quand même choqué parfois, où genre on nous filmait en mode « Mais comment vous osez écrire marocain et vegan à côté? Ça va pas du tout ensemble, elle ou la viande ?»
Ah ouais.
On a eu quand même des trucs assez virulents, mais ça reste une très petite minorité. On a beaucoup de gens qui mangent notre cuisine sans savoir qu'elle est végane, surtout sur les food markets, les choses comme ça, où il y a plein d'autres restaurateurs et tout. Même
et parce
si
qu'on
on
joue aussi un peu avec les mots. Parce qu'il y a notre bannière derrière qui dit marocaine, végane et tout. Mais quelqu'un qui arrive, il regarde directement ce qu'on est en train de faire, la cuisine, va pas forcément regarder la bannière qui est derrière. Et on joue beaucoup dans nos recettes avec de la kefta végétale. Donc la kefta qu'on va mettre soit entre guillemets, soit disant kefta végétale, mais ils vont pas trop faire attention.
C'est quoi une kefta végétale?
C'est en fait, on a un haché végétal qui est fait par une entreprise française, Apivore, qui est très basique. Hein, c'est comme un steak haché, sauf qu'on rajoute nos épices, on rajoute les herbes, le persil, l'ail, l'oignon, etc. Et du coup, on la rend vraiment marocaine. Mais donc, c'est de la protéine de pois, protéine de soja. C'est vraiment, c'est végé. Donc ça, c'est la kefta. Après, on a des aiguillettes végétales aussi. En fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus dans pas mal de restaurants où on va avoir cette protéine-là qui est...
Ou même dans le commerce.
Un substitut, mais qui ressemble vraiment dans le goût.
Vous utilisez les substituts végétaux. On a fait, pour ceux que ça intéresse, on a fait un épisode là-dessus que je vous invite à écouter. Mais oui, vous avez joué le rôle d'imiter de la viande.
Mais très peu. Sur une carte, ça va être un plat.
Ouais. Okay. Et on a aussi, comme elle disait Leïla, donc sur les jeux de mots, par exemple, notre sandwich phare en ce moment sur les food markets, c'est le sandwich méchoui. Mais on écrit bien dans la description que c'est une grillade de champignons pleurotes marinée avec les épices du méchoui. Donc les gens, ils nous demandent souvent, et ça ressemble beaucoup, beaucoup à de la viande, nos pleurotes, une fois qu'elles sont sur la plancha.
Et les pleurotes, c'est
99,9% des gens, ils nous disent c'est du poulet.
Et
c'est
l'odeur,
de la viande,
en fait.
Ouais. Et l'odeur de la marinade du méchoui, on utilise beaucoup d'épices. Ça nous revient assez cher de faire de telles marinades, hein, parce que il y a vraiment beaucoup d'épices qui sont utilisées. Encore une fois, tout est bio, donc c'est des épices aussi qui sont bio. Et on travaille vraiment le produit pour donner cette impression. Et pour parfois combler aussi un manque. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui disent, si vous êtes vegan, pourquoi vous voulez manger de la fausse viande? Moi, j'ai envie de répondre à ces gens-là. On est vegan pas parce qu'on n'aime pas la viande. Moi, j'adorais la viande. On est vegan par choix. On est vegan parce qu'on pense soit au bien-être des animaux, soit à la planète, soit aux deux, et pour plein d'autres raisons. Et donc, vouloir manger quelque chose qui ressemble à la viande, c'est pas un crime. Ouais. Ça peut être quelque chose qui nous manque, ça peut être aussi une très bonne transition. Si on a envie d'un burger avec un haché végétal, quel est le problème? Aujourd'hui, nous, on veut proposer les deux. On veut proposer des substituts pour les gens peut-être qui sont encore en transition ou, enfin, il y a des gens qui ont mangé nos tagines, ils ont dit, ça fait genre 2-3 ans que je suis vegan, j'ai pas mangé de poulet, mais c'était incroyable, j'avais l'impression de manger du poulet. Ben, nous, ça nous rend, enfin, on est content. Et c'est super que certaines personnes puissent avoir cette sensation-là. Et il y a d'autres qui mangent simplement nos tagines, nos légumes, nos entrées, comme on vous l'a dit, on n'a jamais rien changé. Zéalouk, flamatécha, la chlada, les salades de carottes, chelmoula, le serouda, adissa, tout ça, c'est des plats
que
typiques
des mots
marocains.
Que vous ne comprenez pas.
Pardon.
Je sais pas, mais ça me donne faim dans tous les cas.
Tout ça, c'est des plats typiques marocains. On n'a absolument rien changé à la recette de notre maman, qui sont délicieux et dont les gens raffolent.
Est-ce que vous faites gaffe? Parce que pour souvent, ce qu'on reproche aux substituts végétaux, c'est le fait qu'ils sont ultra transformés, avec des ingrédients à rallonge, pas bio. Comment vous intégrez ça dans votre engagement, notamment sur le bio? Et comme tu disais tout à l'heure, la cuisine marocaine, c'est pas une cuisine de l'ultra transformation.
Ouais. On essaye justement de les utiliser le moins possible. Aujourd'hui, par exemple, sur notre carte, cet été, on a fait beaucoup surtout de street food. On était sur beaucoup de festivals, on a fait beaucoup de finger food, on va dire. Et là-dessus, c'était toutes nos entrées, qui sont déjà véganes, sans substitut. C'était notre sandwich un peu phare, du coup, qui est une galette msemen qu'on fait évidemment maison. Big up à Samira Halima encore, je veux le dire, parce que vraiment, elles font un travail incroyable. Et elles produisent parfois 200, 300, 400 msemen par jour.
C'est du feuilletage, il faut plier, replier.
C'est des techniques, vous imaginez même pas le travail qu'il y a derrière.
J'imagine.
les bas de bout, pareil, enfin tout maison. On met dedans une grillade de champignons pleurotes marinés, donc rien de transformé jusqu'ici. Une salade marocaine, une sauce qu'on fait maison. Donc là, vraiment, on n'a aucun produit transformé. Et sur les desserts, en général, on propose soit les brûlés, donc les crêpes qui sont faites maison, soit le sponge. Ça, c'est incroyable.
De toute façon, tout est fait maison, si on doit résumer.
Oui, mais c'est juste pour dire le côté transformé. Du coup, ça, c'est notre carte un peu qu'on a utilisée tout l'été.
Oui, les produits transformés, ça va être une toute petite partie de notre carte. On a deux plats, en gros. Okay. Deux plats qu'on va proposer à la carte plutôt quand les gens vont avoir le choix et on va leur dire si vous voulez vraiment avoir la viande. Donc c'est des petites quantités par rapport à tout le reste qu'on peut faire.
Oui, ouais. Ça représente.
C'est comme ça qu'on essaye
de
l'utiliser le moins.
De notre sourcing.
Et toi, tu l'utilises aujourd'hui au quotidien, ces plats?
Moi, dans mon alimentation, non.
Okay.
Non, moi, je préfère utiliser les légumes. Le haché végétal, j'aime bien. Parce okay. qu'on peut en faire tout,
oh,
la bolognaise, je fais des burgers. En fait, mais je le retravaille tout le temps. J'achète ouais. jamais un pavé un peu comme ça. J'aime bien acheter la base la plus simple possible. Et puis, il y a des marques aujourd'hui qui le font bien, comme Excellent. Je crois qu'ils ont leur bureau à côté. C'est bio, c'est fait en France, etc. Il y a de moins en moins de... Enfin, on va dire d'aliments qui sont ajoutés là-dedans. Et moi, j'aime bien ajouter moi-même mes oignons, mes épices, mes machins pour les cuisiner. Donc, le haché végétal, oui, mais la fausse viande, entre guillemets, très, très peu. Très, très peu. Je préfère manger des légumes.
Sur la partie santé, justement, est-ce qu'on peut dire que la cuisine marocaine, c'est une cuisine saine? Franchement, quand je pense aux plats de façon générale, je me dis, bah, il n'y a aucune raison. Après, c'est vrai que côté pâtisserie, on a un peu l'impression qu'on va se prendre un sugar rush quand on en mange, quoi.
Alors, la cuisine marocaine, d'un point de vue santé, c'est compliqué parce que, malgré le fait qu'on mange assez sain, parce que il y a pas de beurre, il y a pas de crème, ça on a compris, c'est beaucoup de l'huile d'olive, donc on dit toujours l'huile d'olive, c'est bon, ouais. Mais c'est l'huile d'olive en sauce, et la sauce on la mange avec du pain, donc on mange beaucoup de pain. Je pense que c'est minimum un pain par personne, donc c'est des pains ronds qui font taille de votre paume de main environ. C'est beaucoup de, enfin voilà quoi,
de la sauce,
enfin ouais, donc déjà il y a la sauce du plat. Il y a la viande, quand on a la chance d'avoir de la viande qui est assez grasse, et il y a toutes les pâtisseries qui vont entourer le thé à la menthe, les sucreries le matin aussi, par exemple le matin les msemen, les brelettes, tout ça c'est trempé dans le miel, donc là il y a un petit peu de beurre, par contre le beurre, le miel et les gâteaux marocains avec le thé, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on mange des gâteaux marocains, je précise, c'est vraiment quand on a des invités
et on mange beaucoup. Il faut le dire
et
aussi,
on mange en grande quantité.
On mange en grande quantité, c'est-à-dire qu'on veut pas laisser le plat vide et du coup ça mange et en fait pour nous l'accueil c'est hyper important de proposer des tables qui sont très généreuses et du coup en fait on prépare plein de choses et on mange plein de choses. On appelle ça chez Hiwet, ça veut dire les petites envies quoi. Et en fait on dit en gros j'ai plus faim mais chez Hiwa quoi. En fait c'est tellement bon.
C'est la gourmandise.
C'est la gourmandise, voilà. On mange beaucoup par gourmandise.
Et en plus de cette cuisine qui est assez riche, le Marocain n'est pas très sportif. Je suis désolée de le dire, mais...
À part l'équipe de football.
Ce qu'on disait, c'est que nous, c'est pas la petite marche digestive, c'est la sieste. Donc c'est la Méditerranée, donc c'est l'huile d'olive, mais c'est la sieste. Donc, malheureusement, on a beaucoup de problèmes de cholestérol et de santé, de diabète. Enfin, le diabète, c'est un sujet, quoi. Tu peux pas t'asseoir à une table et quelqu'un qui dit « Bah, j'ai le diabète, je prends une chidéra de moins, je prends une bouchée de moins, mais c'est tout. » Enfin, au final, c'est beaucoup de plats en sauce, c'est beaucoup de sucre et c'est pas beaucoup de sport parce que c'est pas dans la culture, malheureusement. Quand on est enfant, on va jouer au foot sur la plage ou autre parce que voilà, il faut se dépenser, on est enfant. Mais les adultes n'ont pas la culture du sport individuel, à part aller marcher sur la côte quand on a la côte.
Ouais.
Je parle pour Casablanca. Il n'y a pas beaucoup de sport qui est proposé.
Après, juste une petite parenthèse là-dessus. On est quand même en train de parler globalement des personnes qui vivent en ville et qui ont des moyens. Donc on parle quand même d'une classe assez modeste, voire aisée, qui est la classe qu'on a connue, nous, dans laquelle on a grandi.
Bah, pas modeste, du coup. Aisée.
Oui. Oui. Aisée, plutôt aisée, bourgeoise, ouais. comme on veut le dire. Mais du coup, dans les milieux plus ruraux, dans les milieux où il y a un peu moins de moyens, on mange beaucoup moins à foison comme on le fait nous.
Ouais.
On mange des choses simples, mais ça va être le petit déjeuner typique du Marocain, c'est le pain, verre de thé et des olives. Ou alors de l'huile d'olive, le pain trempé dans l'huile d'olive, excellent d'ailleurs, avec un verre de thé. Le thé à la menthe, c'est pas cher, tout le monde en boit des quantités inimaginables. Et c'est un culte, le thé à la menthe au Maroc, c'est plus qu'une boisson, c'est un staple de la cuisine marocaine. Et du coup, on est sur quand même les personnes qui ont moins de moyens, ils mangent beaucoup plus simple. On mange dans des petites échoppes du pain avec garni de crudités, un peu de viande de temps en temps ou de choses comme ça. On est quand même sur une population qui est, on va dire, beaucoup plus maigre. C'est vrai qu'au Maroc, on voit aussi ça, et je pense que c'était aussi le cas avant en France et dans d'autres pays, c'est que plus on est bourgeois et plus on a le ventre qui dépasse, quoi. Et au Maroc, c'est très vrai. Les personnes qui ont les moyens roulent dans des gros 4x4 avec le ventre qui dépasse et on mange bien. Non, mais c'est la vérité.
En France, j'ai l'impression qu'on est arrivé en tout cas à l'inverse.
Oui, à l'inverse.
Mais nous, c'est l'inverse parce que maintenant qu'on a les moyens, on s'inscrit à la salle de sport, on fait attention beaucoup à son apparence. Au Maroc, c'est pas un sujet. Les femmes, elles sont pas là pour avoir une belle taille. Enfin, c'est pas.
C'est pas la même conception d'une belle taille.
C'est pas le corps est très différent. Enfin, le corps est perçu très différemment. Une femme qui a des formes, au contraire, c'est une femme mange bien, qui a les rondeurs sont appréciées en général.
Combien de fois on nous a dit en rentrant au Maroc, oh là là, tu manges rien, t'es toute maigre.
Ah moi c'était horrible. Toute ma jeunesse, j'étais maigre par rapport à mes cousins, cousines, ma famille, et du coup, tu te sens presque malade, quoi. Tu dis mince, j'ai un problème. Mais en fait non, c'est juste que mange pas de la même manière et voilà. Mais bon.
Bien manger, être bien en forme, c'est signe de bonne santé et de richesse au monde.
Et Tarek, tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que le plat soit pas fini. Évidemment, ça me pose la question du gaspillage alimentaire. Comment ça se passe, ça? Et vous aussi, dans votre traiteur, si tu dois mettre un couscous, moi, j'ai un souvenir d'un mariage au Maroc où c'était le couscous, le plat. Mais franchement, il restait des quantités de couscous à la fin. J'étais là, mais mon Dieu, que va-t-il devenir?
T'inquiète pas qu'il est pas allé à la poubelle.
Allez, je vais mouiller un petit peu, mais il n'y a pas de gaspillage dans la cuisine marocaine. Il n'y a pas de gaspillage quand il y a de la solidarité, quand il y a du partage et de la générosité. Et au Maroc, c'est terrible de jeter de la nourriture.
C'est haram en fait. C'est puni par la religion.
Par nos religions qui est quand même suivie par la majorité des Marocains. On cuisine beaucoup, c'est vrai, mais on donne tout, on partage. Et c'est pas mal vu, c'est-à-dire si votre voisin il toque et il vous offre un couscous, c'est pas parce que vous êtes moins riche ou moins quoi que ce soit.
Ouais, il y a deux choses, il y a cuisiner pour les autres, ce qui se fait beaucoup. Par exemple, on va faire beaucoup de quantité mais parce qu'on sait qu'on va emmener le couscous à la voisine, mais ça c'est tout le temps. Le vendredi, c'est pas possible qu'il y ait rien qui rentre à la maison. Donc on partage beaucoup entre les foyers. Et on n'a aucun problème à donner des restes. Et ça, c'est primordial pour lutter contre le gaspillage. C'est que déjà dans le foyer, une fois qu'on a fini de manger, on va réutiliser ou on va donner aux personnes qui sont de passage, etc. Et en dehors du foyer, il y a toujours quelqu'un qui donne, le gardien de l'immeuble, et qui va... En fait, on va refaire une assiette. On va pas prendre notre assiette et donner des restes. On va refaire une assiette parce qu'il y a souvent encore un peu de tout, et on va le présenter. On n'a pas de problème à donner des restes, à partager.
Mais après, parce qu'il y a aussi en tout cas dans les villes, il y a une énorme différence de classe. Par exemple, à Casablanca où nos parents sont nés, c'est vrai qu'on est dans un peu notre cocon, aisé, etc. Mais dès qu'on descend, déjà dans le foyer, il y a le personnel qui aide. Ensuite, on descend en bas, il y a par exemple le gardien de l'immeuble, le gardien du parking d'en face. Il y a des personnes dans la rue aussi. Donc il y a une énorme différence de classe sociale et toutes ces personnes-là, elles attendent un peu en fait qu'on leur amène à manger, notamment le vendredi avec le couscous. Bon, ça, évidemment. Nous,
et
le vendredi,
c'est le jour saint, donc c'est le jour du partage aussi. Donc, il y a tout ça aussi derrière, au-delà de ne pas gaspiller, il y a aussi le fait de faire une bonne action. C'est-à-dire, le vendredi, il faut que je donne... D'ailleurs, il y en a tous les vendredis qui cuisinent un couscous pour une famille. Ça fait partie des bonnes actions à faire d'un point de vue éthique.
Chez notre grand-mère, il y avait toujours 3-4 couscous en plus qui étaient préparés dans des plats, et juste, il y avait des gens qui sonnaient et qui prenaient des couscous avec eux. Ouais. Et donc, on est vraiment dans cette esprit de partage, du coup de ne pas gaspiller, on mange les restes. Le couscous, il est toujours meilleur le lendemain. Je sais pas si vous êtes au courant, mais un couscous est toujours meilleur le lendemain. Donc nous, quand il reste du couscous et que après les invités sont partis, le lendemain on peut le réchauffer et le manger, mais c'est un pur bonheur. Et on n'hésite pas à remanger encore le lendemain. On cuisine, en fait on va pas recuisiner tant qu'on n'a pas fini les restes de la veille.
Et vous, en tant que traiteur, comment vous répondez à ces enjeux là parce que c'est souvent, quand on fait de l'événementiel, souvent quand même il y a du gaspillage.
Alors déjà, c'est difficile d'être juste dans
les
quantités,
c'est très difficile.
En vrai, on fait toujours plus, je pense que c'est notre côté marocain. Mais la première chose déjà, c'est que en fait, quand on, par exemple, en tant que traiteur, quand on fait des quantités, on va toujours en mettre plus et on va donner aux gens. C'est-à-dire, on va pas vous compter 200 grammes de zalouk. On va vous compter le zalouk. Vous mangez, vous avez fini, tant mieux. Vous n'avez pas fini, on a toujours des petits tupperwares, des trucs. On dit aux gens, même pour certains événements, on leur dit, ramenez vos tupperwares et tout. Il en reste toujours plus. Enfin, voilà. On n'hésite pas à donner plus que ce que les gens ont payé, entre guillemets, pour pas que ce soit gâché. Après, quand il y a nous on mange évidemment, on ramène aussi à la cuisine pour que tout le monde puisse manger. Enfin, on s'assure que déjà tout le monde est bien mangé. Et ensuite, quand c'est des grosses quantités, quand il y a entre guillemets un flop, par exemple, il y a eu un week-end où il y avait des manifestations, on a dû fermer, etc. Il y a des événements comme ça qui arrivent. On est en contact avec beaucoup d'associations. Et on fait des maraudes, et je peux vous dire que ça part en quelques minutes.
Soit on fait des maraudes, soit ils viennent chercher. On a toujours un moyen de redonner. Ouais. Ça arrive qu'on jette plutôt s'il y a de la production de la veille ou de l'avant-veille où on veut pas prendre de risques.
Non, mais c'est,
mais
très,
c'est
rare.
Très rare. Non, et c'est... surtout, on est franchement...
On n'a jamais jeté, sauf une fois, un week-end où on avait trois événements prévus en même temps. Et en fait, c'était de la marchandise du coup qui n'était pas cuite.
C'est terrible.
Et il y a eu les manifestations suite à la mort de Naël qui a été tué par un policier. Et du coup, deux sur trois événements étaient annulés. Et du coup, là, on s'est retrouvé avec une énorme quantité qu'on ne pouvait pas donner parce que c'était pas cuit, c'était pas préparé. Donc, c'était des pleurotes marinées des par centaines de kilos. Donc, c'est la seule fois, je pense, on a jeté vraiment un bac entier. Mais à part ça, ça nous est jamais, jamais arrivé de jeter des restes. C'est vraiment soit on mange nous, soit les gens mangent. On partage, par exemple, quand on était au pavillon des canaux en résidence, là, le mois d'août. Si jamais à la fin de la soirée on avait cuit des briques en plus ou des bénis de pommes de terre et tout, évidemment on allait donner aux serveurs, on donnait aux équipes et c'était super content d'ailleurs. Et on jetait jamais quoi, ça n'est jamais arrivé de jeter. Et au pire on prend une petite boîte et on donne à quelqu'un dans la rue si c'est des petites quantités, ou on se met en contact avec des associations pour faire des maraudes, notamment avec la Timi ou Utopia.
Le moment où on pourra arrêter peut-être ça et où on aura plus de stabilité, c'est si on a un restaurant.
Ouais, bien sûr.
Et c'est beaucoup plus facile de liquider dans un restaurant.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On en arrive à la conclusion de ce podcast, je vais vous poser quelques petites questions. Et ouais, ça fait déjà 1h05.
Désolé.
Non, mais c'était passionnant. Ma première question pour conclure ce podcast, ce sera évidemment quel est votre plat marocain, quelle est votre recette marocaine préférée.
Vas-y, Léla.
Moi, je crois que j'ai parlé de la pastella, donc la pastilla, parce qu'on la mange souvent pour les mariages, donc ça n'arrive jamais. Et il y a deux manières de la faire. Il y a la version sucrée avec poulet, des œufs, donc c'est pas vegan, hein, des amandes, donc c'est, en fait, c'est vraiment sucré salé. Autour, c'est de la feuille de brique, donc c'est croustillant, c'est à l'intérieur, c'est, le poulet, il est cuit dans de la sauce et tout, donc en fait, c'est magique.
Mais c'est comme un sandwich, tu l'entoures?
Non, c'est un grand plat. Faut s'imaginer qu'on prend des feuilles de brique et qu'on les met au fond d'un plat comme une tarte. Ouais. Et après, on replie dessus. Donc, c'est tout englobé de pâte feuilletée. Et on fait des parts comme ça. C'est du gâteau. C'est trop bon. Et la deuxième manière de préparer la pastella, c'est aux fruits de mer. Donc voilà, je suis sur un plat, moi, qui n'est pas végé, hein, comme quoi. Et il y a crevettes, calamars, etc. La vermicelle, très bon.
Champignons noirs.
Et là, on va dire que la farce, elle est, franchement, ça a un goût un petit peu asiatique. Parce qu'il y a la sauce soja, je pense, avec les champignons noirs. Et voilà. Et en fait, comme c'est un plat d'occasion, on le mange vraiment jamais. C'est très long à faire la pastella avec les amandes et tout.
Et on est en cours de développer la version végane pour la cuisine de soja.
On a déjà goûté des versions véganes aux champignons.
Ouais, mais c'était dérivé. Et nous, on aimerait bien garder les mêmes saveurs. Donc, on est en train de la développer.
Et toi, Tarek?
Ben moi, je vais être assez cliché, classique, mais c'est le couscous. Pour moi, c'est vraiment ou le souksou, comme on dit au Maroc, ça s'appelle comme ça. Parce que, je sais pas, pour tellement de raisons déjà, parce que c'est excellent. Vraiment, pour moi, il y a rien de meilleur. Si je dois choisir un plat que je vais manger tous les jours, c'est le couscous. C'est, on mange bien, il y a plein de légumes, dans la sauce, il y a toujours les pois chiches aussi, donc il y a l'apport en protéines. Il y a vraiment tout dans le couscous. Et surtout, c'est des souvenirs. Moi, à chaque fois que je mange une bouchée de couscous, je me revois le vendredi midi chez ma grand-mère, toute la famille donc c'est ma grand-mère paternelle, toute la famille de mon père autour de la table, les rires et les cris. Ah, ramène-nous, on n'a pas pris l'eau, il est où le coca? On voit quelqu'un à l'épicier.
Imène, viens manger.
Notre cousine qui voulait jamais venir à table. Et c'est tous ces souvenirs qui remontent en une bouchée de couscous. Donc pour moi, vraiment,
c'est ta Madeleine de Proust.
C'est complètement ma Madeleine de Proust. Je pense pour toi aussi, Léla. C'est le couscous.
Le couscous aussi.
Vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas au restaurant marocain en France, mais quand même, est-ce que vous auriez une ou deux adresses à conseiller hormis la cuisine de Swat, dont qu'on espère pouvoir déguster au restaurant quand même bientôt.
C'était mon joker.
Non, franchement, et vraiment, bon, aucun mal aux restaurateurs qui font de la cuisine marocaine à Paris et en Île-de-France.
C'est juste qu'on n'a pas eu l'habitude d'aller manger.
Franchement,
au
quand notre
marocain.
Maman était encore là, jamais on a mangé dans un resto marocain en dehors de chez nous. En fait, c'est trop bon ce qu'elle fait, on peut pas. On va aller, on va comparer, ça va toujours tout de suite être moins bien.
Non, mais c'est même pas que pour ça, c'est que quand on va au restaurant, en général, c'est pour goûter quelque chose de nouveau, de différent. Donc,
et les quelques restaurants marocains dans lesquels on a mangé depuis, c'est bon, mais pour nous, c'est un peu difficile en fait de juger, pour dire vrai. Après, pour en citer quelques-uns, allez, si on veut une cuisine assez rapide qui reste bonne, il y a Yema. Restaurant Yema, dans lequel on peut manger vraiment une bonne cuisine marocaine assez simple et assez rapide. Il y a Little Morocco dans le 18e qui est pas mal.
Allez, on va citer nos copains tunisiens. Il y a Lioum qui est juste à côté.
Oui, nos copains tunisiens de Lioum, rue
c'est
Jean-Pierre
Timbaud. C'est
excellent,
ils font des sandwichs, ils font les plats. Franchement, eux, c'est une bonne référence.
Et Majouja pour la cuisine algérienne.
Bah oui, c'est excellent, Majouja.
Ouais, Majouja, c'est vraiment délicieux. Et ils ont plein d'options végétariennes aussi. Ouais, donc, ils font des tagines aussi végétariens. Et la chef Nora, elle est incroyable. Et toute l'équipe est incroyable. Gros big up à Majouja, vraiment, on les adore.
C'est quoi vos projets d'avenir? Hormis ce restaurant?
Bah ouais.
Peut-être.
En vrai, on aimerait se concentrer sur le restaurant. On aimerait pouvoir... avoir un restaurant d'ici 2024, je pense. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. On a répondu à quelques appels à projets, peut-être qui pourraient peut-être se concrétiser, dans lesquels on prendrait la forme d'un restaurant. Mais vraiment, moi, mon objectif, c'est d'avoir le restaurant. Je pense qu'aujourd'hui, Leïla, elle pourrait le dire mieux que moi, mais elle a aussi, son travail à côté dans lequel elle s'épanouit, et elle a pas forcément l'envie d'aller jusqu'au restaurant. Donc peut-être qu'à ce moment-là.
Je pense que mon rôle va évoluer, moi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Dans l'entreprise, parce que il y a des aspects qui m'intéressent beaucoup, le côté social, pouvoir accompagner des nouveaux arrivants qu'on va intégrer à notre entreprise, faire des formations éventuellement, mais mon cœur de métier sera pas d'être au restaurant et faire l'accueil là-bas, mais peut-être plus de cadrer les équipes, de faire des projets un peu plus de fond. Mmh.
Et aussi sur toute la partie déchets qui est très importante. Leïla, c'est son cœur de métier à date.
Ouais, je travaille dans les déchets.
Et du coup, toute cette partie-là qui est hyper importante pour nous.
Tu fais quoi, Leïla?
Je travaille chez Lemon Tree.
Ah oui, ok.
Tu connais?
Ouais.
C'est une entreprise donc qui propose des services de recyclage dans le tertiaire.
Qui d'ailleurs nous a accueillis pour leur repas de Noël. On leur a fait la cuisine de Noël chez Lemon Tree. Super équipe et qui nous aide aussi dès qu'ils peuvent. Mais du coup, je pense que moi, je vais peut-être vraiment m'orienter sur le restaurant et on va garder cette partie traiteur qu'on aime beaucoup aussi, où on pourra du coup directement cuisiner depuis notre restaurant et faire différentes prestations. On aime bien aussi ce côté street food parce que c'est facilité, c'est exporter la cuisine marocaine et la cuisine végane à tous les publics. Les gens, ils s'attendent pas à ça. Et aujourd'hui, nous, on a envie de montrer que la cuisine végane, elle peut être gourmande. On peut bien manger, c'est souvent la crainte. Nous, notre entourage, il est pas du tout vegan. Hein, et je pense que nos consommateurs chez la cuisine de Swat, c'est 90-95% de non-vegan. Mmh, pas du tout.
Mais de gourmand la cuisine marocaine. Voilà. Il y en a beaucoup qui viennent parce que c'est marocain.
Voilà, pour la cuisine marocaine. Et en fait, une fois qu'ils mangent bien et qu'ils roulent en sortant de nos prestations, ils disent « Ah ouais, en fait, on peut manger vegan et bien manger. » Et c'est pas que... On veut un peu casser ces clichés de la cuisine vegan, c'est du quinoa et des salades, ou alors des burgers, parce que c'est un peu la mode en ce moment de faire des burgers vegan. On veut casser ce cliché aussi et apporter de la diversité à la cuisine vegan. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la cuisine vegan, il n'y a pas beaucoup de gens racisés comme nous qui en font. Encore moins cuisine marocaine vegan, enfin je veux dire, ça s'entend pas. Donc on a envie aussi de pouvoir apporter de la diversité de tous les côtés et grandir la cuisine marocaine, grandir la cuisine vegan, avoir un impact social encore plus grand. Plus on grandira, plus on pourra aider des gens autour de nous et c'est vraiment l'objectif principal de la cuisine de soi.
Est-ce que vous auriez un conseil de lecture, de film ou autre?
Alors, on a bouquiné un petit peu cette dernière semaine pour essayer de préparer un petit peu le podcast, notamment à la bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe, que je vous conseille vraiment si vous voulez faire un peu de recherche là-dessus. J'ai devant moi Le Maroc végétarien de Mohamed Oubaïda, que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une revue qui s'appelle Horizon Maghrébin, et qui a fait toute une partie sur manger au Maghreb. Moi, j'ai acheté la partie 4, pareil, à l'Institut du Monde Arabe. Manger au Maghreb par les mots, les légumes et les fruits, que j'ai trouvé super intéressante. Si vous voulez en savoir plus sur la street food au Maroc, j'ai trouvé aussi un bouquin très intéressant de Julie Carco et Asma Shahadi, Street Food au Maroc, un goût authentique. Okay. Je pense que pour moi, c'est les trois lectures que j'ai un peu retenues. Il y a un documentaire, Le Maroc vu du ciel.
Ouais, sur France 5.
Incroyable. Ouais, ah ouais. Ça, c'était vraiment. Je me rappelle qu'on l'avait regardé avec nos parents, on l'a regardé, re-regardé.
Les images sont vraiment impressionnantes.
C'est un reportage sur France 5.
De Yann Arthus Bertrand.
Ouais.
Soit lui, soit sur mon entourage, mais ouais, quelque chose. En tout cas, ça lui ressemble.
Non, c'est
mais
lui.
Ça s'appelait Le Maroc vu du ciel, il me semble, et c'était hyper, hyper intéressant, enrichissant.
On mettra ce livre et ce documentaire dans les liens du podcast. Merci beaucoup à tous les deux, ça nous a clairement donné faim.
Merci à toi Fanny.
Et à bientôt.
Merci de votre accueil.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable.